J'ai écrit un article ce matin sur la monnaie européenne. Et cet article, il est en relation avec la symbolique qui s'y trouve. Parce que nous allons entrer maintenant dans une période électorale. Beaucoup de gens vont s'exprimer sur l'avenir de l'Europe, le sens de ce que représente cet avenir, le sens de ce que représente l'Europe, son élargissement, ses contours, les promesses qui y sont attachées. Comme d'habitude, beaucoup de choses vont être dites et peu de choses vont être faites. Jusqu'à présent, c'est surtout une Europe économique qui s'est bâtie, qui va plutôt à l'encontre de ce qu'on attend de nos hommes politiques, puisque il suffit de regarder autour de nous aujourd'hui le marasme économique dans lequel on est plongé, dont une des causes, c'est justement la libéralisation des marchés. Systématiquement aller produire là où ça coûte moins cher pour vendre là où les gens avaient de l'argent. Que les pays de l'Est qui sont rattachés à l'Europe sont devenus la source d'une main-d'œuvre bon marché. On a fabriqué là-bas. Pour vendre chez nous, on a fermé les usines. Résultat des courses, qu'après quelques années, tout le monde y a perdu. Que les grandes promesses qui étaient rattachées à cette Europe de soi-disant prospérité, en ce moment, c'est plutôt l'inverse de ce qui se passe. C'est que beaucoup de gens sont ruinés, des banques sont ruinées et des entreprises sont ruinées. Donc par rapport à ça, par rapport à l'économie de l'Europe, son fonctionnement, on va essayer de comprendre un peu comment on en est arrivé là, pourquoi, et ce qu'en dit la parole de Dieu. J'ai étudié un peu le sujet, et puisqu'on a fait une Europe économique, on va donc regarder ce qui est un des symboles de l'économie, c'est-à-dire la monnaie, un de ses éléments essentiels, parce que c'est ce qui permet les échanges. Alors, comme se poser des questions pour nous, chrétiens, quel est le monde qui est en train de se bâtir autour de nous? Est-ce qu'il se bâtit avec Christ ou est-ce qu'il se bâtit contre Christ? Et on va essayer de trouver des éléments de réponse. Dans le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse, il y a deux figures allégoriques qui sont représentées. Une représente l'épouse de Christ, qui est dans le chapitre 12, et dans le chapitre 13, on apparaît une bête qui sort de la mer. Cette bête, le prophète Daniel en parlait déjà, et la décrit comme une statue à tête d'or, et qui se termine avec des pieds mêlés de fer et d'argile. Ces deux images sont aussi deux opposées. C'est un petit peu comme si on avait mis un miroir, parce qu'en fait, ça représente deux nations, deux peuples et deux royaumes, mais qui n'ont pas le même souverain. Nous avons d'un côté l'épouse de Christ, et de l'autre côté, nous avons le peuple antéchrist. Ces deux entités, ces deux figures allégoriques qui sont représentées dans chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse, on pourrait penser qu'elles se font face, mais dans les faits, en fait, elles sont plutôt tête bêche, c'est-à-dire qu'elles se sont constituées au cours des siècles, au cours des millénaires, pour aboutir à aujourd'hui, mais une se termine par les pieds et l'autre se termine par la tête. En fait, elles sont des inverses, elles sont des opposées. L'épouse de Christ, c'est le parfait opposé de ce que le diable a construit sur cette terre. Alors, celui sur qui repose l'esprit du prophète lit les symboles comme une lettre écrite adressée à ceux qui savent l'interpréter dans son sens spirituel. C'est ainsi que sont révélés les songes, les visions et les prophéties souvent énigmatiques. Le terme symbole a pour origine le grec symbola, qui désigne un objet possédé par deux individus. En pratique, c'était un objet séparé en deux morceaux qui s'emboîtent parfaitement pour permettre à deux inconnus de se reconnaître. J'aime bien cette image parce que le Seigneur nous a parlé par des énigmes, le Seigneur nous a parlé par des symboles, le Seigneur nous a parlé par des figures allégoriques. Et le seul moyen qu'on a de pouvoir le comprendre, c'est de recevoir ce qui nous est nécessaire pour l'interpréter, c'est-à-dire l'esprit de prophétie. Il faut que le Saint-Esprit descende sur nous et qu'il nous révèle le sens caché de la parole prophétique qui est dans la parole de Dieu. Nous avons énormément de choses qui sont écrites dans l'Apocalypse, énormément de choses qui ont été dites par les prophètes, mais le sens nous en échappe parce que c'est un sens caché. Ce sont des énigmes et il faut que le Seigneur nous révèle le contenu de ces énigmes. Il faut qu'il nous montre, qu'il nous éclaire et qu'il nous révèle quel est le sens profond, quelle est la vérité qui est cachée derrière tous ces symboles, derrière toutes ces énigmes. C'est un langage. C'est le langage du prophète, c'est le langage de l'Éternel. C'est ainsi qu'il l'a voulu, c'est ainsi qu'il l'a choisi. Le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. C'est donc à nous de nous accorder, et c'est à nous de faire en sorte que nous puissions recevoir de Dieu ce qui nous est nécessaire pour l'interpréter et le comprendre. L'Éternel parle en symbole, l'Éternel parle en énigme, mais pas seulement. Le diable aussi, il le fait. En fait, il parle de la même manière. Le langage spirituel est un langage qui est fait d'images. Et les images sont utilisées aussi bien par le diable que par le Seigneur. Et souvent, le diable reprend les images bibliques à son compte et en pervertit le sens. Cette manière de parler, cette manière de s'exprimer de manière symbolique, elle peut apparaître dans le verbe, lorsqu'on parle, elle peut apparaître dans les arts, dans l'architecture, dans l'économie, la politique. Toutes les choses qui nous environnent peuvent être frappées du sceau d'un symbole spirituel. Mais souvent, on ne l'interprète pas comme tel. Souvent, on passe à côté et puis on ne s'en rend même pas compte. Le spirituel, en fait, il est partout. Le spirituel nous inonde. Le spirituel, nous vivons dedans. Mais comme nous sommes terrestres et que nous regardons avec les yeux d'homme, en fait, le sens caché, les énigmes qui sont exprimées dans notre vie de tous les jours nous échappent parce que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Et nous allons essayer maintenant de pénétrer donc ces mystères, de rentrer dans la vie de tous les jours et voir un petit peu où sont posés ces symboles, ce qu'ils représentent et quelle est l'interprétation qu'il faut en donner pour comprendre quel est le message spirituel qui est derrière. Pour nous, les chrétiens, nous avons cet avantage d'avoir le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous éclaire, il est une lumière, il est la lumière de Christ qu'il nous a donnée, qui nous ouvre les yeux spirituels et qui perce les ténèbres, même les plus profondes, pour éclairer le chemin qui est devant nous et nous montrer quelle est la réalité du monde qui nous entoure, le monde physique, mais aussi le monde spirituel. Un des premiers symboles qui nous entoure maintenant ici, dans le pays, et dans les pays qui nous environnent, c'est le drapeau européen. A priori, si je demande maintenant autour de moi ce que représente le drapeau européen, de nombreuses personnes vont me dire c'est l'association d'un certain nombre de nations qui se sont mis d'accord sur une politique commune, et puis cette association politique a été symbolisée par 12 étoiles qu'on a représenté sur le drapeau européen. C'est ce que j'entends le plus souvent. En fait, c'est pas le cas. Le drapeau européen n'est pas un symbole politique. Le drapeau européen est un symbole religieux. Il est probable que bien peu de citoyens appartenant à l'Union européenne connaissent l'historique du choix du drapeau européen et la nature de l'inspiration de son auteur. Un Strasbourgeois qui s'appelle Arsène Haitz, travaillant au service du courrier du Conseil de l'Europe, qui à lui seul a conçu une vingtaine de projets sur les 101 représentés entre 1950 et 1955. Ce monsieur Haitz nous a dit « C'est à moi qu'on a demandé de dessiner le drapeau de l'Europe. J'ai eu subitement l'idée d'y mettre les 12 étoiles de la médaille miraculeuse de la rue du Bac sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge. Et mon projet fut adopté à l'unanimité le 8 décembre 1955, fête de l'Immaculée Conception. » Comme quoi le hasard fait bien les choses. Nous rendons compte que nous avons ici un blasphème. Blasphème, dans le sens où l'entend l'apôtre Jean, c'est quand quelqu'un, un personnage, parle ou se prend pour Dieu. Quelqu'un se met à la place de Jésus, par exemple, ou quand quelqu'un prend la position qui normalement revient à l'Éternel, qui revient au Seigneur qui est dans le ciel. Or ici, le diable, qui a agi dans l'ombre pour pousser les hommes à agir de cette manière, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a réussi à placer son sceau sur l'emblème qui représente l'ensemble des nations européennes. Parce que derrière la Vierge Marie, nous avons la Reine du Ciel. La Reine du Ciel, c'est la parfaite image, l'opposition parfaite ce que représente le roi dans le ciel, qui est notre Père céleste, qui trône dans le ciel, et qui a été remplacé par l'image de la reine du ciel. Autrement dit, le diable vient et se présente comme étant l'unique individu, l'unique personnage qui règne et qui a autorité sur les hommes. Cette image du bleu, qu'on y associe, qui est l'image du ciel, est extrêmement parlante parce qu'il nous dit pratiquement ouvertement, voilà moi, caché derrière l'image d'une vierge, je me présente à vous comme étant la reine du ciel couronnée, et c'est moi qui ai autorité sur vous. Alors ici, un blasphème parfait. Parce qu'ici, le diable se prend purement et simplement pour l'Éternel. Il prend sa place. Donc poursuivons maintenant et regardez un peu plus loin dans la symbolique de tous les pays européens, si le diable a laissé d'autres traces, si on retrouve d'autres empreintes qui portent son inspiration ou sa marque, nous allons nous rendre compte qu'il n'y a pas que le drapeau, il y en a bien d'autres. La France est le cœur politique qui imprime sa vision à toute l'Europe. Elle est en quelque sorte son âme. Comment le diable imprime-t-il donc physiquement sa marque spirituelle sur la nation qui pense pour l'Europe? La manière qu'il a choisie, c'est la monnaie. Parce que la monnaie, sur la surface d'une monnaie, on y retrouve toujours symbolisées les valeurs qui sont attachées à la nation qui sont représentées par cette monnaie. Pour la France, c'est quelque chose qui est très spécial. Et nous allons voir pourquoi c'est très spécial. Pour prendre la pleine mesure de ce qui va être révélé, un peu d'histoire s'impose. Dans l'Antiquité, les dieux possédaient tout, le pays, les bêtes et même les gens. Dans le principe, cela signifiait que les dieux prêtaient aux hommes ce qui leur appartenait. Chaque ville, foyer ou échange commercial devait se faire avec l'aval d'un dieu. Tout était donc marqué d'une stèle, d'un sceau, ou simplement d'une prière pour confirmer une acquisition ou une appartenance. C'est donc dans les temples qu'apparurent naturellement les premières monnaies qui se diffusèrent plus tard à l'économie en général. Frappée du sceau du dieu tutélaire de la ville où elle était émise, la monnaie était donc bien la garante que la véritable autorité de tutelle était spirituelle et non temporelle, et que cette autorité autorisait les échanges entre les hommes. Les choses ont-elles changé? Bien sûr que non. Si on revient dans la haute antiquité, on se rend compte que lorsqu'un roi faisait la guerre à un autre État et qu'il prenait possession de cet État, une des toutes premières choses qu'il faisait, c'était qu'il élevait une stèle et qu'il faisait graver sur cette stèle une prière où il marquait dessus, voilà, le dieu de ma ville m'a donné la victoire sur mon voisin, eh bien aujourd'hui je prends au nom de ce dieu possession de ce territoire parce que si j'ai gagné cette guerre, c'est grâce à lui. C'est un exemple. Ou alors, pour les transactions commerciales, dans le temps, les hommes avaient une sorte d'amulette autour du cou, qu'on appelait des sceaux cylindres. Sur ces sceaux cylindres était gravé ce en quoi croyait la personne qui le possédait. Et en général, c'était des symboles qui étaient reliés à un dieu, le dieu qui était adoré dans le foyer de cette personne. Et lorsque cette personne allait à quelque part, ce sceau qui était unique, qui était gravé en un seul exemplaire, eh bien, lorsqu'il achetait quelque chose, eh bien, dans la très haute antiquité, chez les Sumériens, on prenait des tablettes d'argile, et alors la personne enlevait de son cou le sceau qu'il possédait, et puis le faisait rouler sur la pâte d'argile, et alors s'imprimait sur cette pâte un dessin où était représenté le dieu auquel croyait la personne, le dieu auquel cette personne était rattachée et soumise. Donc que ce soit les rois, que ce soit les individus, que ce soit les prêtres, les choses se passaient toujours de la même manière. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, eh ben le dieu tutélaire de la ville, le dieu en qui croyaient les personnes, était toujours mis en avant, était toujours utilisé lorsque des échanges devaient se faire, ou lorsque des alliances devaient se faire, ou lorsque les hommes allaient de l'avant pour conquérir de nouvelles terres, prendre possession de nouvelles terres, et puis cette chose-là n'a jamais changé à travers les siècles. Depuis la plus haute antiquité jusqu'à aujourd'hui, en fait, le principe est resté le même. Simplement, les techniques ont changé. Au départ, on gravait des stèles, on imprimait des sauts cylindres, et plus tard, quand sont apparues les pièces, qu'est-ce qu'on représentait sur ces pièces-là? On représentait le dieu de la ville dans laquelle était imprimée ou frappée cette pièce. Donc on se rend compte que dans les échanges, systématiquement, même sans s'en rendre compte, lorsque les Grecs faisaient du commerce avec les Phéniciens, ça se faisait avec l'aval du dieu tutélaire des Phéniciens ou bien des Grecs. Alors on retrouvait représenté sur ces pièces le dieu Baal ou bien le panthéon des dieux grecs. Maintenant, revenons un petit peu à notre époque et regardons ce qui se passe un petit peu sur nos pièces de monnaie moderne. Lorsqu'on prend une pièce d'un euro française, qu'on observe ça de près, on est pris une, traînée quelque part, dans ma poche. J'observe cette pièce dans sa couronne extérieure, jaune, dorée. On retrouve les 12 étoiles qui ont été reprises du drapeau européen. Nous avons donc là le symbole marial qui est imprimé sur la pièce de monnaie. Autrement dit, le symbole du dieu qui est sur la pièce d'un euro française, une pièce européenne, c'est la représentation de la reine du ciel. Ce que je tiens donc dans la main actuellement, ce n'est pas uniquement une simple pièce de monnaie, mais c'est aussi une marque spirituelle. Si je poursuis mon examen, au milieu de la pièce d'un euro, il y a un arbre. Cet arbre est officiellement décrit ainsi. La définition officielle de la figure allégorique au centre de la pièce est celle-ci. L'arbre, symbole de vie, de croissance, de pérennité, et cet arbre figure au centre d'un hexagone. Avec la couronne de Marie à l'extérieur et l'arbre de vie en son centre, on passe de la Genèse à l'Apocalypse. Ce sont les symboles de la parole de Dieu qui sont parodiés ici. C'est la parole de Dieu qui est blasphémée dans son principe. C'est un petit peu comme si j'avais un résumé de la Bible dans la main. On passe des premiers chapitres de la Genèse, premier livre de la Bible, jusqu'au chapitre 12 de l'Apocalypse, on voit l'épouse couronnée de 12 étoiles qui apparaît et dont la description a été reprise pour orner la médaille de la rue du Bac représentant la Vierge Marie. Autrement dit, le diable s'est approprié les symboles qui sont représentés dans la parole de Dieu. Il se les a pris à son compte, il les a pris pour lui. C'est extrêmement grave. Parce que représenter ça sur une pièce de monnaie, de cette manière-là, c'est littéralement entrer en guerre contre la parole de Dieu. C'est littéralement s'opposer à la volonté de Dieu. Parce qu'il est clair que reconnaître Marie comme la reine du ciel et penser que l'arbre de vie, c'est quelque chose qui peut sortir de France pour porter ses fruits, il va de soi que c'est pas ainsi que le conçoit le Seigneur, et ce n'est pas ainsi qu'est représentée et décrite la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais dit que les choses seraient ainsi. Mais le représenter ainsi et le vouloir ainsi est un mensonge. C'est aller contre la volonté du Seigneur. Il y a autre chose qui est très remarquable sur une pièce d'un euro, c'est l'hexagone. Parce que l'hexagone, a priori, on peut se dire, c'est simplement la France. Mais en fait, spirituellement parlant, l'hexagone, c'est plus que ça. Car l'hexagone représente le centre du Magen David, le centre du bouclier, ou plus exactement de l'étoile de David. Pour bien comprendre la symbolique et la signification de ça, il faut revenir à l'histoire des Hébreux lorsqu'ils étaient dans le Sinaï. Dans le désert du Sinaï, quand le peuple établissait son campement autour du tabernacle de l'Éternel, il le faisait selon un ordre bien précis qui formait une grande étoile à 6 branches. On peut donc lire sur la pièce d'un euro français ce message. L'époux et l'épouse sont unis dans sa demeure dans le même esprit. C'est un esprit antéchrist, il va de soi. Car dans toute cette symbolique, toutes les valeurs bibliques sont inversées et blasphématoires. Mais ça ne s'arrête pas, ça. La pièce d'un euro, malheureusement, n'est pas la seule pièce qui délivre un langage spirituel et un message symbolique. En fait, c'est toutes les pièces qui sont imprimées en France. Donc là, on vient de se rendre compte qu'on a résumé sur une seule pièce tout ce qui est dans la Bible, en partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais si on poursuit, et qu'on cherche un peu plus loin, et qu'on regarde la pièce qui a précédé la pièce d'un euro, qui est de le franc, et dont la figure symbolique a été reprise sur les pièces de 50 centimes, 10 centimes ou de 20 centimes, on se rend compte que pour arriver à ce résultat, il y avait déjà un travail de préparation qui a été fait, que le diable avait déjà préparé le terrain, et qu'il avait déjà imprimé sa marque. Sur la pièce de 50 centimes, dite de la semeuse, on voit Marianne au soleil levant, en plein champ, en train de semer. La définition officielle de cette symbolique est celle-ci. La semeuse est une allégorie champêtre qui évoque la France essentiellement agricole du début du XIXe siècle, qui marche vers l'avant en semant les graines d'un futur optimiste. Ces graines illustrent aussi le rayonnement culturel et économique de la France. C'est la version officielle. Il va de soi, ma lecture est bien différente de la version officielle qui inspira les francs-maçons qui ornèrent la République de leur symbole. Mais pour cela, il va falloir revenir à l'hébreu biblique qui révèle notamment le nom de Satan en Ésaïe 14-12. En Ésaïe 14-12, on peut lire ça. C'est un passage où on s'adresse à un roi, mais en fait, quand on lit entre les lignes, on se rend compte que ce n'est pas un roi terrestre qu'on fait référence, mais c'est au diable. Et il y a une phrase, un verset qui ressort dans la description de ce roi et qui nous apprend beaucoup de choses. Notamment, il nous donne un nom. Dans Ésaïe 14-12, on peut lire ça. « Quoi ? Tu tombes des cieux, astre, fils de l'aube. Tu es broyé à terre, vainqueur des nations. Astre, fils de l'aube. » En hébreu, Hélel ben Shakar, est donc le nom de Satan avant sa chute. Concernant ce nom, fils de l'aube, il convient de démontrer une incroyable supercherie initiée à l'origine par l'Église catholique romaine qui tient absolument à en faire un porteur de lumière. Les catholiques ont traduit directement de l'hébreu en latin, ben Shakar, en fils de l'aurore, et par analogie, en étoile du matin, puis, par contraction, en Lucifer. L'étymologie de Lucifer en latin est lux, qui veut dire lumière, dans le génitif. Lucis est accolé à ferré, qui veut dire porter en latin, soit Luciferé, qui donne ce nouvel éponyme. La traduction française est pourtant lumière ou porteur de lumière pour le mot d'origine du septante en grec, phosphoros. Satan, par ce subterfuge, devient le porteur de lumière qui guide les hommes vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais jamais Satan n'a été un porteur de lumière. Jamais Satan n'a été prénommé Lucifer dans la Bible, ni appelé étoile du matin ou nommé fils de l'aurore. Le seul fait d'avoir créé de toutes pièces ce nom est un blasphème à l'encontre de Jésus-Christ. Lucifer est un nom blasphématoire à bannir du vocabulaire des chrétiens. Le prononcer ou l'écrire reviendrait en fait à ne plus dire Satan, mais Seigneur Satan. Voici l'explication du soleil levant sur la pièce de 50 centimes. Si on observe cette pièce, ou l'ancienne pièce d'un franc, lorsqu'on la regarde, qu'on l'observe, on voit donc une femme qui sème dans un champ, mais derrière la femme, sur l'horizon, on voit un soleil levant. Comme je viens de vous le démontrer maintenant, en fait, ce soleil levant, si on se réfère au verset d'Ésaïe, eh bien, n'est rien d'autre que l'allégorie que la figure symbolique du nom du diable révélé dans le verset d'Ésaïe. Donc autrement dit, sur cette pièce de Monin, c'est comme si le diable avait frappé de son sceau cette pièce pour y imprimer son nom. Il faut quand même être gonflé. Il se cache même pas. Je dis, ben voilà, moi, Satan, je m'imprime sur votre pièce de Monin afin que vous sachiez qui est votre maître. Parce que n'oublions pas que la nation qui utilise une pièce de Monin, en fait, est soumise au dieu tutélaire qui est imprimé sur cette monnaie. Parce que le dieu tutélaire, en fait, c'est le dieu qui nous permet, qui nous prête le monde dans lequel nous vivons. Tous nos échanges, tout ce que nous faisons, eh bien, c'est parce que lui nous permet de le faire. Et là, en l'occurrence, c'est le diable. Mais poursuivons, parce qu'il n'y a pas que le soleil levant. La représentation de la semeuse est à chercher dans Genèse 3.15. Ici, il parle du conflit entre Satan et l'Éternel. Satan a corrompu le cœur d'Ève, lui a menti, et l'a conduit vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suite à ce qu'il a fait, il a été déchu, il a été maudit. Et dans les malédictions qui se sont abattues sur Satan, il y en a une que j'aimerais faire ressortir. Et celle-là, elle est décrite dans Genèse 3.15. Je placerai, c'est l'Éternel qui parle, je placerai l'inimitié entre toi et entre la femme, entre ta semence et entre sa semence. Elle te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. La semence peut aussi être compris comme la descendance, c'est le même mot en hébreu. Donc la descendance de la femme est de par sa nature spirituelle, si elle vient de Dieu. Ou la descendance de la femme est du serpent quand elle se perpétue par Caïn, premier fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché qui a été commis par Ève a eu une conséquence. Et cette conséquence, ça a été une naissance gémellaire. Elle a eu deux enfants. Mais sur ces deux enfants ne reposait pas le même esprit. Un était de la semence du serpent et l'autre était de nature divine. Un était Abel et l'autre était Caïn. Un était meurtrier, menteur, bâtisseur de civilisation, et l'autre était un simple pasteur qui gardait des moutons et qui était agréé par l'Éternel, parce que ce qu'il recherchait, ce n'était pas d'être agréable pour lui-même, mais c'est d'être agréable pour le Seigneur. C'était deux états d'esprit totalement et complètement différents. Donc, le diable, dans ce qu'il a fait, eh bien, c'est en fait définir quel serait l'avenir, le futur de l'humanité. Et ce futur, le Seigneur a voulu le séparer. Il a dit, parce que tu as fait cette chose-là, eh bien, je mettrai une inimitié entre la descendance de Caïn et entre la descendance. Cette descendance qui sortira de la femme, mais qui sera porteur de mon esprit. Et il en sera ainsi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La symbolique de la femme et sa semence, la mère et l'enfant, la vierge et l'enfant, Marianne en semence portant Mitra, la couronne mariale entourant l'arbre de vie, qui en fait est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout est en référence à la parole de Dieu, qui est blasphémée par les allégories sataniques. On se rend compte, lorsqu'on observe cette pièce de Monin, en fait, Satan pervertit la parole de Dieu. Il reprend ce passage qui est marqué dans la Genèse, en Genèse 3.15, et par des mensonges, par des artifices, en fait, il nous dit, ici, sur cette pièce de Monin, eh ben, moi, je suis la semence de la femme, et puis cette semence va vous apporter prospérité, bonheur, et va vous mener vers la félicité. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est exactement l'inverse que le Seigneur nous révèle. Le diable s'est habillé de lumière, le diable s'est habillé de mensonges, le diable a pris l'apparence et la forme de cette femme, cette reine du ciel, qui porte en elle une semence qui n'est pas de Dieu, mais qui est une semence satanique, pour arriver à un monde qui est un monde qui n'est plus un monde à l'image de Dieu, mais qui est un monde à l'image de Satan. Parce que si on observe cette femme et qu'on regarde comment elle est habillée, on se rend compte qu'elle a sur la tête un bonnet phrygien. Et le bonnet phrygien en fait, n'est pas, comme on pourrait le supposer, le bonnet de la liberté, comme on veut nous le faire croire, parce que pendant la Révolution, les gens portaient un bonnet, parce que le bonnet était le symbole de la liberté chez les Romains, mais ce bonnet, de par sa forme, est le bonnet que portait Mithra. Mithra, c'est un dieu qui nous vient des Perses et qui était représenté comme le soleil invaincu. C'était le fils qui mourait et qui renaissait en permanence au fil des saisons. Nous avons donc ici une image de la mère et de l'enfant. La mère qui porte le fils. Nous avons deux symboles spirituels très forts. Ces deux symboles, on les fête aussi. La fête de Mithra, c'était la fête de Noël, parce qu'elle représentait la mort du soleil et qui mourait, puis renaissait de nouveau pour grandir et s'élever dans le ciel au printemps et puis s'élever jusqu'à l'été. Et pendant toute cette période, eh bien, la nature renaissait, et les arbres et les plantes fleurissaient, et puis c'était le symbole de la vie. Donc ce soleil nous donnait la vie, ce soleil nous apportait la prospérité. C'est cette symbolique-là qui est reprise sur la pièce. Nous avons donc des symboles païens, des symboles spirituels, qui sont imprimés sur cette pièce de monnaie, et qui sont l'inverse parfait de ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, je vous enverrai ma semence par la femme, et puis cette semence, eh ben, il y aura une inimitié entre celle qui portera mon esprit et celle qui portera l'esprit de Satan, puis une écrasera la tête du serpent, alors que le serpent, lui, essaiera de lui blesser le talon. C'est la symbolique de Christ qui doit venir dans le monde pour s'opposer au mal, pour défaire l'emprise du diable et donner la vie aux hommes. La tête du serpent sera écrasée, son raisonnement sera écrasé, et Christ vaincra sur toute chose. Cette semence qui viendra plus tard, qui est Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu, elle se répandra sur le monde et vaincra le mal, vaincra le serpent. Nous avons donc ici des symboles qui sont très forts. Nous avons vu la pièce d'un euro, nous avons vu la pièce de 50 centimes. On se rend donc compte que ce monde qui se bâtit aujourd'hui autour de nous, ce n'est pas un monde qui est purement politique, qui est façonné par les hommes, avec des idées philosophiques ou des idées politiques, mais en fait, c'est un royaume spirituel qui a ses gouvernances, qui a ses autorités, autorités qui ne se cachent même pas et qui s'impriment sur nos pièces de monnaie, et qui nous parlent, qui s'expriment, qui ont leur langage et qui ont leur symbolique. Et quand on voit qui est derrière ces symboles, et quand on voit ce qu'ils sont en train de bâtir, une chose est claire, on ne peut pas adhérer à cette chose-là. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas aller dans ce sens-là. On ne peut pas dire, moi je veux que l'Europe de demain soit une Europe plus forte, que ce soit une Europe mieux construite, une Europe avec une constitution, une Europe de ceci et de cela. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que le Dieu tutélaire de cette Europe ne vient pas du ciel, mais il est caché derrière l'image de Marie qui est la reine du ciel. Et en fait, ce Dieu tutélaire qui veut dominer sur l'Europe, c'est le diable lui-même. Il veut que dans les derniers jours, le royaume qui supplante le royaume du ciel, c'est un royaume terrestre sur lequel il a toute autorité et dont les symboles, dont les croyances, dont les orientations lui sont favorables et s'éloignent de plus de ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Le diable, ce qu'il veut, c'est façonner un monde à son image qui nous éloigne, qui nous détourne totalement et complètement de l'éternel. On peut donc dire, sans trop se tromper, que l'Europe est la bête d'Apocalypse 13 et l'Église catholique de Rome, qui lui prête ses symboles, la prostituée d'Apocalypse 17, car les deux sont indissociables dans la parole de Dieu. Il convient donc de faire une relecture des symboles religieux inscrits sur notre monnaie française, mais selon les vérités bibliques et non selon les mensonges du diable qui en a repris les symboles pour se les approprier en inversant le sens. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à prendre votre main, votre porte-monnaie, et de lire ceci. Apocalypse 13, 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on paye quelque chose, qu'on échange quelque chose avec une simple pièce de monnaie, en fait, on a une marque dans notre main, sans même le savoir, c'est la marque de Satan lui-même. Marque qui est représentée sur la pièce d'un euro et sur les pièces qui représentent des centimes. Voilà l'Europe qu'on est en train de bâtir. Voilà le royaume qui est en train de se bâtir autour de nous. Mais nous, les chrétiens, est-ce que c'est ça qu'on veut bâtir? C'est ce royaume? C'est satisfaire à ses exigences? C'est entrer dans cette logique? Est-ce que c'est cette voie qu'on veut suivre? Ou est-ce que c'est celle de l'Éternel? Si c'est celle de l'Éternel, il faut donc revenir à la parole de Dieu et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quel est le royaume que l'Éternel veut bâtir? Nous avons donc vu ici ce que le diable veut bâtir. Ce que le diable veut bâtir, c'est un royaume sur terre, où il domine, où il a toute autorité. Mais nous, qui croyons dans le Seigneur, qui espérons en lui, ce que nous voulons, c'est rentrer dans son royaume. Et pour rentrer dans son royaume, la meilleure manière d'y arriver, c'est encore de suivre les conseils du Seigneur. Et pour retrouver ces conseils, nous allons encore aller dans la Bible. Écoutez ce que Jésus nous dit. Dans Matthieu 13, ce même jour, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord de la mer. Les gens s'assemblèrent autour de lui. Bientôt, la foule fut si nombreuse qu'il dut se réfugier dans une barque. Il y prit place pour s'adresser à toute la multitude qui se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement et leur expliqua bien des choses sous forme de paraboles. « Écoutez bien, leur dit-il, le semeur vient de sortir pour aller semer. Pendant qu'il répand sa semence, une partie des grains tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et les mangent. D'autres tombent sur un sol rocailleux. Ils ne trouvent qu'une mince couche de terre. Ils ne tardent pas à lever. » Parce qu'ils ne trouvent pas moyen de s'enraciner profondément dans le sol. Mais quand le soleil monte haut dans le ciel, et qu'il darde ses rayons, les petits plants sont vite grillés, et comme ils n'ont pas assez de racines, ils sèchent. D'autres grains tombent au milieu des ronces. Celles-ci grandissent et étouffent les jeunes pousses. Mais d'autres tombent dans la bonne terre, et donnent du fruit, avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du royaume des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. À celui qui ne garde rien, on enlèvera même ce qu'il a. » Bien, tu te rends compte que rien n'a changé. Que ce soit du temps de Jésus, où Jésus parlait en parabole, afin que seuls ceux qui en ont vraiment le désir reçoivent la compréhension des énigmes, des histoires qui sont racontées par Jésus. Il faut vraiment faire une démarche, c'est-à-dire aller vers le Seigneur et demander à comprendre le sens caché du Verbe de l'Éternel. On s'est rendu compte que lorsqu'on prend une pièce de monnaie dans la main, ça ne nous saute pas aux yeux comme ça. D'un seul coup, la vérité nous vient, la lumière nous envahit, et puis on se rend compte que, évidemment, la marque de Satan est imprimée sur les pièces de monnaie. Satan est en train de se construire un nouveau royaume qui est représenté dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Mais c'est évident, c'est marqué sur la pièce de monnaie. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour que la révélation de l'Éternel vienne, Jésus le dit que c'est un privilège. C'est un privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. C'est un privilège. Le Seigneur poursuit. Voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paraboles. Parce que tout en ayant des yeux, ils ne voient pas. Tout en ayant des oreilles, ils n'entendent ni ne comprennent rien. En eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir. En sorte que j'aurais pu les guérir, dit l'Éternel. Vous, par contre, vous pouvez vous estimer heureux, parce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent. Oui, vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et d'hommes pieux auraient bien voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils auraient aimé entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Le grain tombé sur le sol rocaillé représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconséquent et versatile. Dès que surviennent les difficultés et qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il se laisse entraîner à tout abandonner. D'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. D'autres enfin ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. Cela porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un troisième 30. Ensuite, il leur raconta une autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui ayant semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe. Les serviteurs vinrent trouver le propriétaire du champ pour lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y pousse de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un coup de quelqu'un qui m'en veut. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous allions arracher cette mauvaise herbe ?»« Non !» répondit le maître. « En arrachant la mauvaise herbe, vous risqueriez de déraciner en même temps le blé. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans ma grange. » Nous nous rendons compte que dans ces deux paraboles, le Seigneur joue le rôle du semeur. Et cette semence, c'est sa parole. Cette semence, c'est son esprit. La parole de Dieu peut être considérée comme des grains de blé. On sème à droite et à gauche, et lorsqu'elle trouve un terrain favorable, cette parole croît, jusqu'à être restituée dans sa forme première, en portant beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit, les fruits de la parole. Et on se rend compte que systématiquement, là où le Seigneur fait quelque chose, le diable passe derrière et essaye d'étouffer cette parole. Il vient avec sa propre semence, il vient avec ses propres grains à lui. Ça va être des ronces, ça va être de la mauvaise herbe. Je vais faire l'analogie avec ce qu'on a vu avant. La semence de l'Éternel porte une génération qui est le reflet de la parole de Dieu. C'est une génération qui suit et qui écoute le Seigneur. L'autre génération, l'autre semence qui est celle du diable, suit et écoute le diable. Et si elle l'écoute, cette génération-là, ces enfants-là, ces peuples-là, portent aussi du fruit. Ce sont les fruits du mal. Nous avons donc là deux destins, nous avons donc là deux royaumes qui se façonnent. Un sera le royaume de l'Éternel, dont la destinée est de régner un jour sur toute la terre lorsque Jésus en reviendra. Et l'autre est un royaume éphémère, qui est celui que nous vivons actuellement, et qui est le royaume du diable, qui essaye et qui fait tout pour détourner les hommes de la parole de Dieu, de les éloigner du Seigneur. Cette chose est encore d'actualité aujourd'hui. C'est encore une réalité qui nous est actuelle et qui doit, dans un temps futur, arriver à son achèvement. Et l'achèvement, c'est lorsque paraîtra, dans sa plénitude, le fruit de ce travail, le fruit du travail de l'Éternel et le fruit du travail du diable. Quand les choses arriveront à leur terme, eh bien, une séparation se fera, une séparation entre ce que le Seigneur aura fait pendant des siècles dans l'humanité et ce que le diable aura fait pendant des siècles dans l'humanité. Il y aura un aboutissement qui se fera, un aboutissement qui aboutira pour les uns à l'arbre de vie, qui est Christ, et pour les autres, un aboutissement qui aboutira, une finalité qui aboutira à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mot connaissance en hébreu, ça veut dire l'union. L'union du bien et du mal. Au terme des jours, les hommes associeront le mal et le bien pour ne faire plus qu'une seule chose. Ils feront un, ils feront corps avec ça. Ils suivront l'homme qui se présentera comme étant quelque chose de bien, mais qui en fait sera la personnification du mal. C'est ce qu'on appelle l'antéchrist. Il sera l'achèvement, l'aboutissement de la création satanique. Ce sera l'homme qui représentera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ces jours où peuvent paraître ces deux arbres. Alors sommes-nous prêts à recevoir Christ ou sommes-nous prêts à aller goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Nous nous rendons compte que la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses-là. C'est des choses qui nous concernent, c'est des choses qui sont d'actualité, c'est notre environnement de tous les jours. Le spirituel est au milieu de nous, le spirituel nous environne, nous y sommes soumis, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, mais nous avons deux choix, nous avons deux solutions, deux portes. Une qui mène à Christ, ou une autre qui mène à Babylone. Je vous rappelle que Babylone, ça veut dire la porte du Dieu, mais pas de l'Éternel qui est dans le ciel. Le Dieu de Babylone, c'est Satan. Donc, à nous de choisir de faire le bon choix, de suivre la bonne route et d'ouvrir la bonne porte. Nous allons encore refermer cette page en la remettant au Seigneur. Mon Dieu, nous avons abordé des sujets difficiles, des sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'on ne peut pas contourner parce qu'ils appartiennent à notre vie. Je te demande, mon Dieu, de donner à chacun sa part, de la faire croître, que ton esprit maintenant repose sur chacun de nous, qu'il rappelle ses paroles en son temps, afin que chacun, en son âme et sa conscience, puisse définir la voie et son chemin dans cette vie sur cette terre. Ô Jésus, puisses-tu maintenant nous garder et nous emmener vers ton royaume, afin que nous soyons ta semence, que nous soyons ton bon grain et que nous portions beaucoup de fruits. En ton nom, Yeshua. Amen.